Mon père, il m'a dit, voilà, tu veux partir en Israël, tu pars avec un métier manuel. Même si tu n'as pas la langue, tes mains parleront pour toi.
Justement, comment tu gérais alors la cache-route? Parce que quand on apprend à cuisiner, on doit goûter ce qu'on fait.
J'arrivais et je faisais, oh là là, elle a une drôle de tête, ma crème. Et elle faisait, ah non, excellent, écoute, si tu le dis...
Donc en fait, tu le faisais goûter à ta place.
Voilà. La cache-route, c'est le balabait.
Donc ce propriétaire. Le propriétaire.
N'importe quelle cache-route. Si tu ne connais pas le propriétaire, si tu ne sais pas s'il est Ratchamaïm, laisse tomber.
S'il craint le ciel, ouais. Le jour où on t'appelle pour préparer une réception pour le Rav Adi Yosef.
Et son fils, Rabbi Moshe, fait « Papa, pour le traiteur, c'est lui qui nous a fait manger. » Alors, il dit « Approche, je m'approche de lui. » Il me bénit, il me... Et tlac, je suis un rachat, je suis quoi ?
Salut à tous et bienvenue sur Torah Box pour ce nouvel épisode de Panim El Panim. Aujourd'hui, on reçoit Franck Assuli, plus connu sous le nom de Franck Delight, un des traiteurs francophones les plus connus en Israël. Mais aujourd'hui, la vérité, on ne va pas trop parler de pâtisserie, mais plutôt d'un parcours assez impressionnant. Franck a quitté la France en 1998 avec sa femme et son bébé de 6 mois pour venir commencer une aventure extraordinaire en Israël. Quelques années plus tard, il se retrouve même à organiser des réceptions pour des stars comme Eyal Golan et même devenir un des traiteurs du Rav Ovadia Yosef et d'autres rabbanim. Vous allez voir, il a des histoires assez folles. Mais aussi, à travers son parcours, on va découvrir le parcours de sa femme qui a fondé le Cœur des Mamans, une association qui vient aujourd'hui en aide à des familles nécessiteuses en France et en Israël. Vous allez voir, c'est une histoire passionnante. Alors on perd plus de temps, c'est parti tout de suite pour ce nouveau Panim El Panim avec Franck Assuli. Franck, salut et bienvenue sur Torah Box.
Merci beaucoup.
On est super content de t'avoir. Alors, je te présente pas Torah Box.
Mais... Torah Box, moi d'abord, je suis fan. D'ailleurs, c'est un gros problème. Je te jure, à chaque fois, j'attends le mercredi pour qu'il arrive au magasin, parce que je te jure...
Qui arrive au magasin le mercredi?
Le Torah Box.
Ah, le magazine, on parle.
Ah ouais, le magazine, ouais, bien sûr. Parce que maintenant, mon Shabbat, s'il n'y a pas le Torah Box, ça m'effraie vraiment.
C'est vrai que c'est devenu aujourd'hui un Shabbat sans Torah Box.
Mais c'est une catastrophe. D'ailleurs, il faudrait que j'appelle Binyamin, je lui demande qu'il m'envoie plus. Les gens, même, ils viennent chercher chez moi des piles. Alors maintenant, je le cache derrière le comptoir, et parce qu'ils viennent prendre pour leur communauté.
Tout genre, ils te prennent un truc qui te vide le stock. Ouais.
Et c'est pas que ça, aujourd'hui, t'as besoin de chercher un truc, tu veux étudier, t'as 5 minutes, t'as Torah Box directement.
Toi, ça t'arrive de regarder des cours sur Torah Box?
Ah oui, mais complètement. Souvent, je vais avoir des petites dates, calendrier, je suis avec des clients, bar mitzvah de mon fils et tout ça. Je fais, attendez, bougez pas, je vais vous calculer ça, je regarde, je sais.
Sur le convertisseur de dates.
Oui, exact.
Au moment où on enregistre cette émission, on est en plein mondial, en pleine Coupe du Monde de football. Ça me permet de faire une transition, ça me rappelle une image. On est en 98 et pendant que nous, on fait la fête parce qu'on a gagné la Coupe du Monde, toi, t'es dans un avion avec ta femme et ton bébé de 6 mois, direction Israël pour commencer une aventure. Quand tu te retrouves dans l'avion avec le recul, est-ce que tu dis, c'est pas un pari un peu fou de partir avec une femme et un bébé de 6 mois?
Alors...
On parle d'une époque où c'est pas la mode de faire la
guerre. Ah non, à l'époque, c'était pas... On montait par sionisme, on montait pas du tout par antisémitisme. Mais je veux te dire, en fait, moi, c'était un projet. C'était un rêve. Depuis l'âge de 16-17 ans, je commençais à tomber amoureux d'Israël. On voyageait 3 fois par an avec mes parents en Israël. Et j'y ai rencontré, je me suis fait des copains israéliens et des tripolitains, des gens exceptionnels. Et je disais, purée, papa, on a tout, on manquait de rien, grâce à Dieu. Mais un truc que je n'avais pas, c'était cette simplicité, la belle vie qu'ils avaient, ces Israéliens. Une vie exceptionnelle où j'allais les voir. Tu veux manger? Viens manger. T'es avec qui? T'es avec tes copains? Ben, venez. Mais
il y a moins de formalités, c'est vrai qu'ici, c'est plus naturel. C'est, on est tous en famille. Quoi.
C'est ce que je dis aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens de France. Oh, moi, j'ai du mal avec les Israéliens, je vous dis franchement. Ils vous bousculent, ils vous écrasent le pied, même pas, ils vous disent pardon. Quoi. Alors, je leur dis, vous voulez que je vous dise, je préfère qu'on m'écrase le pied que quelqu'un qui m'ouvre la porte et vers derrière qui me dit, quel sale juif celui-là.
On va parler du Rav Sitruk parce que tu étais proche du Rav Sitruk.
Ah, ouais.
Il y avait une blague comme ça du Rav Sitruk sur l'Alia, tu la connais?
Je sais pas, parce que beaucoup de mes blagues, il les a refoulées dans les chiouris.
Toi, t'es en train de dire que c'est le Rav Sitruk qui refoule tes blagues à toi?
Une bonne partie. On a passé, on a passé une jeunesse à se raconter, moi et Jacob.
En général, c'est l'inverse, c'est nous qui recasons les blagues
de Rav. On s'est raconté beaucoup de blagues parce qu'on adorait. Le Rav Sitruk, Zechon Elivracha, c'est à la fois, tu le regardais comme un homme, tu me parlais de mondial, mais qui était passionné de foot.
Ouais,
qui était, comment ça s'appelle, passionné de blagues, parce qu'il c'était un homme de Simcha. Un homme de joie, et il adorait passer du beau moment. Comme ses enfants, ils sont pareils. Et Yaakov et moi, on s'est connus comme ça.
Yaakov, donc le fils du Rav Titruk.
Ouais, ouais, le fils aîné. Et on était des très bons amis. Et on s'est connus, en fait, le jour où son père, je ne savais même pas qui c'était, en fait, on s'est rencontrés en Israël. Et c'était l'année où son père a été nommé grand rabbin de France. Et après, on s'est revus à la rentrée et on a passé des moments jusqu'à maintenant. On se voit, on se contacte, mais bon, ça a été, on a été très proches, et ce qui a été très marrant, parce que à la fin, finalement, à force d'être proches, eh ben, ma sœur, elle a fini par se marier avec son neveu. Et comme il avait dit au Rav Citruc, il disait à ma mère, « Renivrara Mireille, je savais un jour qu'on allait être de la même famille. » Et vraiment, c'est un plaisir.
Alors, raconte-nous une blague qu'il a pu nous raconter à nous, qui vient de Franck Assulli.
Alors, moi, je lui avais raconté l'histoire des boulettes. Tu la connais, l'histoire des boulettes, hein? C'était elle venait de moi, celle-là.
Ah ouais.
Celle-là venait de moi. Mais ce qui était marrant, à chaque fois que je lui racontais une blague et qu'il la connaissait, il me faisait... Moi, je vais te la raconter.
Il a dit, je te raconterai mieux ta blague que toi, voilà. Tu vas me la raconter.
Mais on passait des moments exceptionnels. Et mais ce que j'aimais chez lui, c'est que, en fait, tu regardais un Rav qui adorait le foot, qui adorait blaguer. Mais un truc qui était formidable, c'était il était McPeed, il était exigeant sur la halakha. Et tu n'avais pas l'impression, en fait. Mais en fait, c'était quelqu'un de très McPeed.
Il savait jongler entre cette ouverture envers les gens et ce côté de rigueur sur la halakha.
Et surtout, ce que j'ai aimé chez lui et ce que j'ai appris de lui, si je peux sortir un enseignement de lui, son Derech Eretz. Quand on dit Derech Eretz, Kadma da Torah, aujourd'hui, c'est ma bataille. Parce que c'est le plus important aujourd'hui pour moi. Et j'ai appris de lui énormément. Je peux te raconter une anecdote.
Vas-y.
On était 30 personnes, 40 personnes à l'époque, on commençait les shiurim, donc je venais de connaître Yaakov. Il me dit, viens, mon père, il donne un shiur. Bon, je dis, avec plaisir, je vais voir ton père. Et on arrive au shiur, et d'un coup, il y a quelqu'un qui pose une question, mais à l'ouest. Mais quand je suis à l'ouest, c'est comme si on est en train de parler d'une halakha, comment faire, quel bracha on fait sur cet aliment. Et l'autre, il pose une question, est-ce que l'homme, il montait sur la lune? Tu vois, bon, tout le monde a rigolé dans la salle. Nous, moi-même, on était tous pris de rigolade. C'est il est à l'ouest, le mec, quoi. Et au bout du compte, le Rav Citruc, il a dit, comment vous appelez? Alors, je ne sais pas, par exemple, Monsieur Belaïch. Il a dit, Monsieur Belaïch, vous et moi, on va très mal s'entendre. Alors, bien sûr qu'on rigole, c'est normal. Et là, il lui a dit, vous savez, Monsieur Belaïch, vous avez dit déjà la conclusion de mon chiour. Alors, tout le monde, attends, c'est pas possible. Cet homme, avec cette question bidon, c'est... Et en fait, il a terminé son chiour sur le... Je me rappelle plus c'était quoi le sujet, quoi. Et quand on est sorti du chiour, j'étais voir le Rav Citruc, je lui dis, Kavod Rav, j'ai une question à vous poser. C'était sérieux, là? Il m'a dit, j'allais le laisser comme ça, dans la honte.
Ah,
je suis tombé. Et des histoires, je peux t'en raconter une cinquantaine comme ça. Et j'ai tout appris de lui sur le derecheret, le respect des gens.
Incroyable.
Et je le remercie.
Incroyable. On va...
Donc, tu m'as parlé d'un pari. C'était un pari pour moi de venir. Je veux te dire, je veux te répondre par quelque chose, parce que ça m'a plu ta question, en fait. Moi, j'avais un rêve, c'était d'habiter en Israël, d'avoir cette vie qu'ils avaient, ces Israéliens. Et je te dis franchement, je l'ai eu, et je l'ai, et je suis heureux. Et ça a été dur, j'en ai bavé. J'en ai vu vraiment de toutes les couleurs. C'est même moi qui ai amené ma femme en Israël pour te dire qu'au bout de 2 ans, je lui dis on retourne. Et ma femme m'a dit on est là, on reste, tu débrouilles.
Alors on va revenir justement sur les hauts et les bas d'une alia, comme ça peut arriver à n'importe qui. Juste avant, je fais un petit retour en arrière.
Ouais, je t'ai abordé trop de sujets là.
Non, non. Non, c'était prévu, t'inquiète. Hein. On fait semblant que c'est pas prévu, mais c'était prévu. T'es issu d'une famille qui a fait Teshuva, donc cette fameuse grosse époque dans les années fin 80, début 90, où les familles commencent à faire Teshuva, les séminaires, etc. Et tu passes par les écoles juives, par la yeshiva aussi, sauf qu'à la yeshiva... ça ne va pas matcher. C'est-à-dire que tu ne corresponds pas peut-être au profil où tu n'es pas à l'aise. Ton père le sent, il aurait pu insister, mais au lieu de ça, il va t'ouvrir les portes d'une école de pâtisserie. Donc tu vas rentrer dans ce monde-là de la pâtisserie, et quelques années plus tard, cette décision va changer toute ta vie, parce que voilà, tu vas devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. Est-ce qu'en gros, la première question que je voulais te poser dans cette émission, c'est est-ce qu'en gros, le premier à avoir cru en Frank Delight, ce n'était pas ton père?
Ouais, moi je lui dois tout à mon père. Je lui dois tout à mon père parce que il m'a mis dans la pâtisserie, j'ai pas aimé ça. Pendant 2 ans, je détestais ça. J'allais à l'école de pâtisserie, j'étais le seul juif. Et c'était horrible. Quand tu sors de l'école juive, t'as un entourage juif, tout le monde parle ta langue, quoi. Et t'arrives dans un monde goy. Mais je me retrouvais à la création, récréation. C'était des vannes aussi. Par exemple, une fois, on a fait une sortie scolaire. Et on s'est arrêté dans un café. Et la prof de pâtisserie, elle me regarde, elle me dit « Picsou Franck ». Il y a 10 francs par terre, vous voulez pas les ramasser ?
Ah d'accord, carrément.
Ah non, c'était sans arrêt des vannes, le juif, l'oseille et tout le tralala. Finalement, après, j'ai aimé. Au bout de 2 ans, j'ai adoré. Ce qui me faisait tenir, c'est que c'était mon passeport pour partir en Israël. Mon père, il m'a dit, voilà, tu veux partir en Israël, tu pars avec un métier manuel. Tes mains parleront pour toi. Même si t'as pas la langue, tes mains parleront pour toi.
C'est beau. Et justement, ton père, il était fournisseur dans les grandes cuisines, donc il avait un peu de connaissances dans le milieu de la restauration.
J'étais bien renseigné, hein.
On bosse, hein, ne crois pas qu'on improvise. Hein. Il va utiliser ses contacts dans les écoles que tu vas fréquenter, pas pour te favoriser, pour te pistonner, mais pour t'aider à respecter le Shabbat, qui n'est pas toujours évident dans ce style d'école.
Ah, j'arrivais sans aucun problème.
On te laissait tranquille, quoi.
Ouais. Le seul problème que j'ai eu, tu sais quoi, c'est à l'auteur de mon examen de pâtisserie. Ils m'ont demandé de faire un croissant au jambon. Et là, je me suis retrouvé bloqué, j'étais dégoûté, et j'ai pris du papier film, je l'ai mis dans mes mains, j'ai entouré mes mains, et j'ai pris le jambon, j'arrivais même pas à le toucher, tu vois, pour te dire. Ils m'ont regardé comme un ovni, mais bon...
Et justement, comment tu gérais alors la cache-route? Parce que quand on apprend à cuisiner, on doit goûter ce qu'on fait.
Je n'ai pas goûté, j'avais trouvé des tactiques, Dieu il m'a aidé. J'ai compris qu'un non-juif, c'est un passionné de son métier, mais vraiment. Alors, j'arrivais, et je faisais, oh là là, une drôle de tête ma crème. Et le goy à côté, il me faisait « Non, moi, je le trouve bien. Hein. » Je fais « Non. » Je l'ai raté. Et là, il me faisait « Ah non, excellent. Écoute, si tu le dis... »
Donc, en fait, tu le faisais goûter à ta place.
Voilà. Parce que j'avais compris leur fonctionnement. Le matin, quand je devais manger, j'avais faim le matin, je faisais des baguettes, c'est nous qui les fabriquons les baguettes, et je savais que le chocolat cacao barry était autorisé, donc je mettais ma baguette à sortie du four tout chaud, je mettais ma barre de chocolat, ça fondait, et je mangeais. C'était ma façon de manger.
Et ensuite, tu vas faire un stage chez ton oncle traiteur, tu vas acquérir de l'expérience. Et en fait, c'était prévu, cet alia?
Je t'ai dit, comme je t'ai dit au début, moi, mon but, c'était d'apprendre la pâtisserie, c'était mon billet pour partir en Israël. Je voulais cette vie en Israël.
Et ta femme, elle était dans le même délire que toi de dire...
Elle ne s'attendait pas maintenant, parce que quand je l'ai connue, je lui ai dit, voilà, tu sais qu'on va se marier dans un mois. Elle m'a dit, comment? Alors, je lui ai fait...
Je te donne le programme.
Alors, je lui ai dit, le programme, on va se marier, on va partir en Israël, je vais ouvrir une pâtisserie, et voilà, nos enfants vont grandir dans les écoles juives, dans les écoles religieuses. Et elle... Et ma femme, justement, je crois que ce qu'elle a aimé, c'est qu'elle savait que...
Je sais ce que tu voulais dans la vie.
Elle a vu que quelqu'un qui savait ce qu'il voulait et où il voulait aller. Et elle s'est sentie prise en main. Et elle m'a dit, écoute, moi, de toute façon, j'aime Israël et pourquoi pas. Et on s'est mariés. Un an après, on est partis. Un an et demi après.
Alors, comme dans toute grande chose dans la vie, souvent, le Yetzer Hara s'en mêle. Et tu décides donc tu prends l'avion, tu fais ta alia, tu avais... un projet d'être engagé dans un grand hôtel de Jérusalem.
Ouais, bien sûr, j'avais pas parti.
Mais ton alia est repoussé de 6 mois, c'est ça, de quelques mois.
Exact.
Et du coup, le projet tombe à l'eau.
Alors, je devais rentrer dans un très grand hôtel, j'avais fait mes preuves, et je leur ai dit, voilà, j'ai un petit un problème, on va venir que dans 6 mois. Ils m'ont dit, ah, pas de problème. Bah, je suis arrivé, quand je me suis présenté, ils m'ont dit, désolé, on a donné la place à quelqu'un d'autre.
D'accord.
Donc, l'angoisse.
Et à ce moment-là, t'as un plan B?
Ouais, j'ai été travailler un peu à Tel Aviv, un peu dans les territoires, un peu à Jérusalem.
Tu sais quoi, ton travail ?
Des extraits de pâtisserie.
Alors justement, tu vas commencer à faire des gâteaux dans ta cuisine, à la maison.
6 mètres carrés.
6 mètres carrés. Et les premières commandes, elles arrivent comment ?
En fait, les gens, ils m'appelaient, ils me disent que demain, j'ai une brite mila, est-ce que vous... Et moi, ouais. Et j'ai dit la vérité, je disais oui, je savais pas où j'allais. En fait, j'ai toujours été comme ça. Hein. Je dis oui, après
tu réfléchis.
Voilà. Après, j'achetais des croissants chez quelqu'un, parce que j'avais pas de quoi fabriquer des croissants. Et je l'ai laissé pousser toute la nuit sur des grilles.
Ah, tu me parles des croissants, justement, tu m'offres la transition, c'est que s'il y a une histoire rigolote avec les croissants, parce qu'on est dans une époque, les années 90-2000, c'est pas tellement connu en Israël, la viennoiserie française, etc.
Alors,
et on va te
prendre... Ah non, c'est une horreur.
Je vais nous raconter ce passage avec le croissant, avec les Israéliens qui viennent t'acheter des croissants.
Donc j'ai ouvert en 99, août 99, j'étais tout content, ils vont kiffer et tout
donc
ça.
Donc là, tu ouvres ta boutique,
ouais,
Frank D-Light.
Ouais, j'ouvre ma boutique, Frank D-Light, en 99, et j'ai commencé à voir les premiers clients du quartier qui venaient et tout ça. Et il commençait à m'acheter un croissant, et le mec, il dit, alors, Taïm, hein? Tu sais, j'étais tout content. Et les gens, ils me regardent, ils me disent, Maz et Taïm, ah, t'as ganave.
Alors, j'ai un voleur. Français, est-ce que c'est bon? Et l'autre, non, mais t'es pas bon, t'es un voleur.
T'es un voleur. Je fais, pourquoi je suis un voleur? Il me dit, mais y a rien dedans. C'est du vide. Y a de l'air. Nous, on veut de la pâte. On veut quelque chose qui bourre.
Pour ceux qui ne comprennent pas, en Israël, les croissants qui sont vendus, ils sont toujours vendus avec du contenu, dans la crème pâtissière,
ouais, ouais, c'est du pain,
du
c'est chocolat, de la pâte à pain.
Ils ne connaissent pas le croissant au beurre classique. Voilà.
Aujourd'hui, maintenant, bon, aujourd'hui, ça a changé. Voilà. Ce qui a changé, ce qui a fait changer les Israéliens, je veux te dire, c'est quoi? Pour moi, hein, c'est une théorie, c'est que quand il y a eu ces vols pas chers, comment ça s'appelle?
EasyJet
et tout le tralala. Ça a permis aux Israéliens, ils adorent voyager.
Oui,
et ils ont voyagé de plus en plus. Parce que moi, je voyais à la boutique, ils rentraient et ils disaient à leur mari, Iné, Yeshlo éclair. Il a un éclair, c'est comme on a vu à Paris. Et je les entendais de plus en plus dire, c'est comme on a vu. C'est là qu'il y a eu l'évolution.
Dès le départ, tu choisis de travailler sous une surveillance rabbinique particulièrement exigeante. C'est peut-être bizarre au début. Au début, quand on se lance, on sait que c'est beaucoup plus exigeant, donc c'est beaucoup plus cher.
Et c'est plus cher, ouais.
Et alors, pourquoi tu te lances dès le début dans ce niveau?
D'abord, ce qu'il faut savoir, tu m'as parlé de mon père, et je voudrais préciser quelque chose. C'est qu'en fait, mon père, c'est quelqu'un qui... J'ai mon grand frère qui est Roche Kollel, d'accord? Et mon père, il m'avait dit un mot. Il m'avait dit, regarde, je vais investir dans ta pâtisserie. D'accord. Bon, c'est sûr, j'ai pris une tonne de crédit, mais il m'a donné de quoi
la base.
Recevoir le crédit. Et il m'a dit, regarde, surtout n'oublie pas. En kemar, en Torah. Et en Torah, en kemar.
Donc c'est un passage de la Mishnah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine.
Voilà, Perkei Avot. Donc, au bout du compte, il m'a dit, tu aideras ton frère. J'ai démarré, et mon frère, il m'a dit, on est obligé, en tant que Roche Kollel, il me disait, tu prends le top, mon frère. N'aie pas peur. Mais je me dis, ça coûte cher. Ça coûte hyper
cher. Au niveau de la surveillance rabbinique.
Bien sûr. Et là, je lui dis, t'abuses. C'était, à l'époque, c'était des salaires de 4000 balles, quoi. Et 4000 shekels, c'était cher, quoi. Et j'avais à peine de quoi payer un employé. Parce que j'ai démarré, je faisais la plonge, la pâtisserie, et ma sœur, elle me tenait le magasin. Et après, il y avait ma femme qui est venue.
Donc, payer un mage-guier, un surveillant, c'était une fortune, quoi.
Ouais. Alors surtout que tu aurais payé une cache-route en balles, 800 balles, quoi.
D'accord.
Donc, entre 4000 et 800 balles, c'était pas mal, quoi.
Et tu y vas.
Et j'y vais. Je me lance. J'ai fait confiance à mon frère, parce que mon frère, c'est un homme sage. Et franchement, c'est grâce à lui que aussi j'ai pu avancer, parce qu'il m'a donné, il a su, grâce à... Je pense que c'est un homme tellement... D'ailleurs, il a un très beau collègue à Jérusalem. Et grâce à sa sagesse, j'ai su avancer parce qu'il a su me donner les conseils qu'il fallait.
Et est-ce que c'était déjà arrivé de jeter de la marchandise alors que personne n'avait rien remarqué, une marchandise qui n'était pas aux normes de cette cache-route-là?
Ah, non, ça ne m'est pas arrivé de jeter, mais ça m'est arrivé de... Ça a été très dur, ça a été une décision très dure. C'était que j'avais reçu surtout du chocolat, c'est l'élément principal qu'on met dans tous les gâteaux. Et j'avais reçu du chocolat d'une autre marque et il n'y avait pas le tampon dessus. Et le mec, il m'avait... Alors en Israël, tu sais que tu passes commande, tu ne sais même pas ce que tu vas recevoir. Hein. tu dis, le mec, un ton de telle marque, du sucre...
Il y a que les Israéliens qui vont comprendre de quoi tu parles.
Ah, je te jure, tu reçois un gros sucre, tu reçois un truc, tu reçois... Et chaque fois, ça change. C'est jamais la même marque, jamais le même ton, c'est jamais le même... Et là, il m'envoie un autre chocolat, mais il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de tampon dessus. Et là, j'appelle le mec, il me dit, écoute, je veux vérifier avec le fournisseur. J'appelle mon fournisseur, que lui, il veut vérifier où il avait acheté. Et le temps qu'il me répond, c'était trop tard. J'avais vendredi qui arrivait. Et j'ai perdu un chiffre d'affaires d'un vendredi.
Ce qui repense, on imagine, une grosse somme, quoi.
Ouais. Ouais. Surtout quand tu étais dans les deux premières années de la création, tu ne veux pas louper un vendredi, parce que le vendredi, c'est ton chiffre, quoi.
C'est ça, ouais. Ouais. Au fond... parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, tu sais, quand on vérifie la plaque, quand on arrive dans un restaurant, chez un traiteur, etc. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est que, est-ce que la cache-route, elle commence au moment où le surveillant, il vient pour surveiller ce qui se passe chez toi, ou au moment où il part, pour savoir si toi, t'es fiable et tu vas...
Là-dessus, je veux te répondre très clairement, d'accord? Et je veux que tout le monde l'entende, parce que c'est très important. La cache-route, c'est le Baal HaBayit.
Donc ce propriétaire.
Le propriétaire. Parce que... Le mage-guier, il vient à 8h du matin. Moi, je suis à 6h du matin là-bas. 5h, 4h même. Même 3h même. Il n'est pas là. Il va pas venir à 3h du matin avec toi. Donc tu fais ce que tu veux. Il s'en va, il est 4h d'après-midi, toi tu bosses jusqu'à 6h, 7h du soir, tu fais ce que tu veux.
Donc si on n'a pas quelqu'un de fiable en termes de propriétaire...
Et que ce soit n'importe quel cache-route. Si tu connais pas le propriétaire, si tu sais pas s'il est Rav Shamaïm, laisse tomber.
S'il craint le ciel, ouais. Ah ouais. Je traduis au fur et à mesure des gens. Pour...
Ouais, ouais, je suis désolé.
Il n'y a pas de problème. Donne-moi des cas concrets. C'est quoi qui peut se passer dans un laboratoire quand quand il n'y a personne ? Il n'y a que toi qui est en train de préparer ton... Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il a vérifié les produits, ils sont bons ?
Moi, je vais donner un exemple. Une année, j'avais fait une réception. C'était une année de Shemitah.
Shemitah, donc, c'est tous les 7 ans. Voilà. On ne travaille pas la terre en Israël.
Voilà, donc il faut trouver des fruits et légumes qui sont avec le bon tampon pour pouvoir... le manger pendant l'année de la Shemitah, parce que ça a été un produit qui a été acheté donc en dehors d'Israël, d'accord ? C'est pas évident. Donc je faisais une réception à Houlon, je me rappelle, c'était Houlon ou Rishon, un truc comme ça. Et comme je te dis, les fournisseurs, ils sont très marrants. Le mec, il m'a livré 4 paquets de salade et il m'en fallait 8. Donc je prends ma voiture, je fais le tour... dans tout le quartier, je trouve pas un truc avec bonne cache-route. Eh ben, j'ai été voir mon client, je lui dis, voilà, je lui dis, je vais être honnête, j'ai pas voulu vous acheter n'importe quoi, il manque une salade, vous pouvez me retirer du menu, de la somme que vous me devez, il n'y a aucun problème. La cliente, elle a adoré ça, elle m'a dit, pourquoi je vous retirer ça ? Vous êtes vraiment formidable, merci beaucoup. Comme quoi, quand tu fais la Torah, tu fais le Emet,
Tu perds pas. Et justement, en parlant de cache-route, il y a ce jour, ça m'a impressionné quand j'ai préparé l'émission, le jour où on t'appelle pour préparer une réception pour le Rav Vadi Yosef. Comment on se retrouve traiteur chez le Rav Vadi Yosef ? Ça doit faire flipper un peu quand même.
Ah, ça fait flipper, ça c'est sûr. D'ailleurs.
Mais comment il est arrivé chez toi ?
En fait, c'était sa belle-fille qui avait entendu parler de mes gâteaux. Et donc, à partir de là, elle me commandait de chaque fois qu'il y avait un événement chez le Rav, j'y allais. Et si je voudrais dire une petite anecdote, la première fois que tu m'as dit c'était impressionnant d'arriver chez lui, la première fois que j'étais chez lui, alors tu sais que tu rentres, il le voit, toi, t'es comme ça, tac, tac, tac. Et je rentre, et en fait, j'ai pas fait attention, il y avait un vieux monsieur qui était là avec sa gemara, qui était, tu vois, à peine sa tête, et mais t'es pas habillé en grand rabbin, tu vois, c'était chemise, tu vois, lunettes. Et j'ai dit, ben, il est où ? Et en fait, on rentre avec les serveurs, on pose tout le matériel. Alors, tu sais, quand tu rentres avec le matériel, ça fait du bruit. Ouais. Il était à quoi ? 2 mètres de moi ? Même pas. Il n'a pas levé la tête de le Sagmara.
Attends, donc la personne que tu parles, c'était... Ah d'accord, ok. Et tu ne l'avais pas reconnu ?
Je ne l'ai pas reconnu. Bah non, parce que d'habitude, tu le vois avec son...
Avec la tenue du Rishon LeZion, etc. Ah, ok.
Et là, il n'avait pas. Il était en pratique, quoi, tu vois, en privé, quoi. Et il n'a pas levé la tête. Et là, j'ai compris que c'était lui. Mais on s'amusait, on repassait, et ça bougeait pas, il était toujours sa tête dans la gemara. On dirait qu'il vivait dans un autre monde. Alors par contre, c'est la première fois que je l'ai vu aussi, j'étais aussi choqué, parce que je ne savais pas, on m'avait pas prévenu que quand il faisait une bracha, il donnait une claque. Je sais pas si tu savais, mais je rigole pas.
Non, je sais qu'il donne des claques, mais je t'imagine toi en train de recevoir une bête.
Moi je suis arrivé, et son fils Rabbi Moshe fait « Rav, Abba ». Pour papa, pour le traiteur, c'est lui qui nous a fait manger. Alors, il me dit, je m'approche de lui, il me bénit, il me... Et tlac, je suis un rachat, je suis quoi. C'était choquant, tu vois. Mais après, moi, j'ai pris l'habitude de prendre des claques, c'était très sympa.
C'est vrai que tout le monde a été heureux d'en recevoir.
Ah, je crois que c'était une bracha, on l'attendait, sa claque, plutôt. Ouais.
Est-ce que tu as des histoires, justement, avec le Rav Vadi Yosef que tu as pu vivre quand tu as fait des réceptions chez lui, etc.
Ouais,
j'en ai fait plusieurs.
Des histoires, ouais, j'en ai plusieurs. D'abord, une fois, j'ai fait, quand il était Khatan Torah, et j'ai dormi à Arnof, à côté de sa maison, j'ai installé le buffet, j'ai tout fait et tout ça, et j'étais émerveillé par... Il avait un certain âge déjà, et il sautait en l'air, mais il sautait, comme quelqu'un qui saute à la corde.
On parle de Simchat Torah.
Ouais, de Simchat Torah. Au niveau du Kiddush, il sautait en l'air et il bénissait le Ham Israël. Mais tu sais que quand tu sais, le mec qui saute à la corde là, ouais. Il sautait haut. Ah ouais. Et il bénissait le Ham Israël sans arrêt. J'étais impressionné. Moi, j'étais fatigué. J'étais fatigué pour lui, à la limite, tu vois.
Et on parle de Ravad Youssef. Il y a aussi d'autres Gdolim que tu as eu la chance de fréquenter et de préparer à manger, si j'ai envie de dire.
Alors, un truc, c'était impressionnant. C'était, je crois que c'était la même pointure que Ravad Youssef, c'était Baba El Azhar. C'est René Livraha aussi. Alors, son fils, il étudiait pas loin de ma boutique.
Ouais.
Et il avait adoré, il avait ramené à son père, je ne savais pas qui c'était moi en fait, il avait ramené à son père des croissants amandes et le millefeuille, et son père, et surtout la rabbinite, adorait le millefeuille.
Et du coup, tu crées une proximité avec ces rabbinimes, ou tu les vois, ou c'est juste ces enfants qui viennent chercher le gâteau?
Écoute, une fois je me suis senti obligé, et c'est pas ma fille, elle a eu un kyste qui était collé sur son artère principale ici, l'opération était très délicate. Et là, j'ai dit, je vais aller voir Baba El Azhar. Et j'ai appelé mon ami qui s'occupait de faire entrer les gens là-bas. Il m'a dit tout de suite, Franck, il n'y a pas de problème, viens à minuit. Minuit 15, alors il m'a dit, écris une lettre. Alors moi, avec mon hébreu à l'époque, c'était pas top. J'ai pris un copain, j'ai galéré, j'ai écrit la belle lettre et ça. Tu sais, je suis cassé la tête à bien faire, à expliquer le cas et tout. Et j'ai été là-bas, je rentre à minuit et quart là-bas, je me rappellerai toute ma vie, avec l'enveloppe papier, tu comprends bien, tu l'as plié en quatre, tu vois.
Ouais.
J'arrive devant le Baba El Azhar, et là, je tends la lettre, et j'étais choqué parce qu'il a mis... Il a levé sa tête alors qu'il n'avait pas regardé.
Oui, les... Baba El Azhar, pour ceux qui ne connaissent pas, il avait vraiment toujours le regard...
Il avait une capuche
protégé.
Comme ça.
C'est ça, ouais.
Il avait une capuche qui descendait comme ça, et tu ne voyais pas sa tête. Il ne voulait pas regarder les gens, en fait. Et j'avais vu qu'il n'avait pas regardé les autres. Et moi, je lui ai donné. Et là, il a levé la tête, il m'a regardé. J'ai eu peur, mais j'ai vu la tête de Baba Salé. Comme je la regardais quand j'étais jeune sur les cadres, tu vois.
Ouais.
La même tête, ça m'a choqué. Et sans ouvrir le papier, écoute bien, Youssef, il l'a tenu, il m'a regardé et il m'a dit, tout ira bien pour Ephrat. Réfouachez les mâles, Ephrat.
Donc ta fille s'appelle Ephrat?
Non, elle s'appelait Shana.
Elle s'appelait Shana?
Ouais.
Et donc, il t'a dit, il faut Agenema pour Ephrat.
Ouais. Et moi, sur le coup, il parle avec moi, là. C'est un problème.
C'est pas elle.
Et moi, j'attendais une réponse, t'inquiète pas, tu vois. Et au bout du compte, son chamash, il m'a expliqué. Il a très bien compris de quoi il parlait. Il n'a pas ouvert la lettre. Il savait pas que c'est. D'où tu vas comprendre ce que c'est. C'est pourquoi c'est pas pour ma mère, pour ma sœur, pour Laura Lenou, pour quelqu'un, tu vois. Il a compris qu'il savait directement ce qui était inscrit pour ma fille et qu'à partir de maintenant, elle va s'appeler Ephrat.
Et donc, ta fille a changé de nom?
Ouais, elle s'appelle Ephrat.
C'est incroyable.
Ouais.
Baruch HaShem, ça a été après l'opération.
Comme sur des roulettes.
Baruch HaShem. Franck, on arrive à la question qui fâche. Alors, j'ai pas de jingle, la question qui fâche.
Ouais.
Mais est-ce
attends,
que
tu veux que ça
fasse? Est-ce que t'as déjà entendu quelqu'un qui t'a dit, franchement, c'est bon, mais pour du kasher?
Ah ouais.
C'est le fameux...
Tu que je te dis, pour moi, ça a été une forme de Kiddush Hashem.
C'est-à-dire
on a tous une avoda sur cette terre, et pour moi, de faire ça, j'ai eu plusieurs fois, et ça m'a fait plaisir, c'est un Kiddush Hashem exceptionnel.
C'est-à-dire qu'on a le préjugé de dire que si on mange kasher, ça va être... ça peut être bon, mais pas plus que ça.
Une fois, tu me rappelles une histoire, j'étais pour les bureaux Orange, tu sais la Revrat Orange, maintenant ça s'appelle Partner, et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, on reçoit tous les directeurs de magasins religieux, tous ceux qui ont une kippa, quoi. Donc, ce n'est pas forcément des orthodoxes. Hein. Et on voudrait un catering, un traiteur cachère. Il m'a dit, quelqu'un de chinois a goûté chez vous. Il était à une réception, on aimerait bien vous prendre. Je fais, OK, je fais un devis. Voilà, ils me prennent. On fait la réception. Et la directrice, elle vient. Elle me dit, vous êtes le patron? Je fais, oui. Elle me dit, sachez que c'était excellent. J'ai reçu des compliments de tout le monde. Mon personnel m'a félicité, vos serveurs en plus. Quelle gentillesse, quelle... incroyable, mais excellent, excellent. Alors je vous remercie madame, c'est très gentil. Et là, elle me donne la phrase qui m'a la douche froide. Elle m'a dit, vous savez monsieur, dès qu'on aura du kasher encore, on vous rappellera. Et là, j'ai l'impression que j'étais en France. Et je fais, mais attends, je dis, j'ai pas compris là. C'est vers quoi, dès qu'on aura du kasher? Elle m'a dit, parce que c'est pas assez bon pour les gens qui mangent pas kasher. Elle m'a dit, en fait, j'avais pas réfléchi, vous avez raison, Perse. Et ils m'ont rappelé après. Mais dans leur tête, c'est que kasher, c'est pas bon.
Kasher, c'est pas bon, ouais.
Et ben, au Hachem, Et ça m'est arrivé, même une fois, il y a quelqu'un qui est venu m'a charrié. Je faisais un buffet dessert après un mariage. Et le mec, il a un Israélien, il a mangé, il vient me voir, il me dit, Nélo, je mange Shabbat, Nishum Davar, je sais pas, bon, s'il faut traduire, je mange pas cachère, je fais pas Shabbat, je mange même des crevettes, il m'a dit. Alors, je lui ai fait, bah, kolakava, je suis très fier. Alors, et il m'a dit, ce que je dis, si t'avais pas une kippa sur la tête, j'aurais dit, tes gâteaux sont halavi.
Alors qu'ils avaient mangé de la viande juste avant.
Ah ouais. Et ça l'a choqué, le mec, de faire manger des gâteaux comme ça. Après un repas bassin.
En concret, aujourd'hui, on peut manger kasher avec le plus haut niveau de kashrout et avoir un goût équivalent.
Équivalent.
Au début, tu faisais partie des pionniers. Il n'y a pas beaucoup de pâtissiers français en Israël. Donc toi, tu es à Jérusalem, hein, pour dire, ouais. Là, on n'a pas dit la ville, Jérusalem. Il n'y a presque personne sur le marché. Et puis les années passent, et les pâtissiers ouvrent les uns après les autres. La concurrence explose. Mmh. La première fois que tu vois arriver tous ces concurrents, comment tu le vis?
Quand on te dit dans la Torah, dans le 10e commandement, ne regarde pas le jardin de ton prochain. Si tu veux regarder les autres, tu vas être malheureux. Ah, lui, il a une plus belle voiture que moi. Ah, lui, il a une plus belle maison que moi. Ah, lui, il a une meilleure pâtisserie que moi. Si tu commences à regarder les autres, tu vas être malheureux. Tu sais, dans la vie, on est là pour faire notre chemin. C'est-à-dire, moi, je suis venu, je suis là pour faire des gâteaux, je suis là pour faire kiffer les gens, je suis là pour faire... Je fais mon travail. Et après, je rentre chez moi, et puis c'est tout. Après, c'est comme le secret de la réception. J'explique à des clients. Vous voulez que je vous dise, soyez exigeant avant la réception. Vous voulez des nappes vertes, roses. Vous voulez que je monte sur le buffet, je danse, il n'y a aucun problème. Enfin, demandez-moi ce que vous voulez. Mais le jour de la réception, il faut savoir faire confiance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui va diriger. C'est plus nous. Et le secret de la vie, c'est ça. Quand tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'as pas peur. Tu t'es lancé dans une aventure, venir en Israël. Eh bien, encore une fois... Toi, tu fais ta ishtadlout, tu fais ce que tu dois faire. Après, si tu dis, voilà, Hachem, je te laisse terminer les choses. Quand tu regardes les choses sous cet angle, tu t'en fous de ce qui se passe autour.
Tu fais plus de calcul.
Voilà.
Et donc, tu es heureux, comme tu dis, quand tu compares pas.
Oui, exactement. Si tu veux comparer, tu verras toujours un truc qui verra mieux chez l'autre. Et l'autre, il va dire, ah, mais lui, finalement, il a fait ce contrat, l'autre, il a fait ce... Mais qu'est-ce que je m'en fous? Moi, je dois faire ce que Hachem m'a donné à réaliser. Et je peux te dire, il y a eu des baisses, mais Hachem, il fait en sorte, les gens, ils revenaient tout de suite. Toujours parce que tu sais, les gens, ils veulent toujours goûter un petit peu chez le voisin, et après, ils reviennent. Mmh. Et bon, c'est très bien, bon, Hachem, c'est vrai que ces moments de baisse, ça m'a un petit peu stressé. Mais j'ai appris à avoir l'aïmounat Hachem.
Franck, j'aimerais qu'on parle un peu de recette, de bonté envers l'autre, parce qu'on parle du rapport... d'un juif envers son prochain. Et aujourd'hui, avec ton épouse, vous avez créé le cœur des mamans, qui est...
Je vais te remettre d'abord en place. Je t'aime bien, Youssef, mais je vais te remettre en place. D'abord, je voudrais dire quelque chose qui était primordial avant que je te remette en place. Hein. C'est pas maintenant que je vais te remettre en place, je vais le mettre de côté, là, traqué.
Vas-y, on est large.
On est large. D'abord, moi, si je voudrais dire quelque chose, c'est, comme je t'ai dit au début, j'ai appris du Rav Sitruk, le Derech Eretz.
Façon de se comporter.
Ouais. Moi, pour moi, le respect du prochain, c'est ce qu'il y a de plus cher. Moi, quand je fais une réception, je fais comme si c'était la mienne. Quand je donne un conseil à quelqu'un, je fais comme si c'était pour moi. D'ailleurs, il y en a qui ils me demandent des devis, je leur pose des questions sur à quelle heure ils vont arriver, quelle heure peut-être le musicien que vous avez prévu. Mais parce qu'en fait, j'en veux que la fête de cette personne elle soit réussite. Et moi, y a des gens qui m'appellent, Franck, tu mets 20 plateaux comme ça, 10 plateaux comme ça. Je dis, mais vous êtes combien? Il me dit, bon, on va être 60, 70. Je fais, non, t'as pas besoin d'autant. Prends ce que ça. Parce que j'aurais voulu qu'on me donne ce conseil. J'aurais voulu qu'on me dise la même chose. Il y en a qui disent, oui, achète celui-là, magnifique. Mais il vaut 10 fois le prix de l'autre. Tu connais, c'est dans les magasins comment... Ben, moi, toute ma vie... Je me suis battu à voir le bien et aider les gens. Et Dieu a fait que j'ai eu un mérite de me marier avec une femme qui s'appelle Samantha. Et je n'ai pas créé le cœur des mamans. Et elle n'a pas créé le cœur des mamans. C'est Hachem qui l'a créé. Parce qu'en fait, ça nous est tombé sur la tête. Une fois, il y a une famille qui est de 9 gosses. La femme est enceinte du 9e, Merila. Elle avait 8 gosses et 8 enfants. Et le 9e, elle est enceinte, elle a eu une leucémie. Elle devait se faire soigner aux États-Unis. Les enfants, ils ont été donnés à une famille qui avait un 4 pièces avec 5 gosses déjà.
Wow.
J'imagine. On m'a demandé, est-ce qu'on peut les aider t'as le réseau Franck Delight, t'es connu, tatatat. On a fait des appels sur notre Facebook et on a reçu des colis à tout va. Mais tellement qu'ils nous, à la fin, c'était trop. On dit, bon, écoute, on va pas le jeter, c'est des dons. Il faut respecter les dons qu'on nous donne. Alors on a cherché une famille, on a cherché une deuxième, troisième, quatrième. Et le Cœur des Mamans a démarré comme ça, et ma femme, elle s'est lancée là-dedans.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Cœur des Mamans, c'est une association qui aide les familles démunies à travers tout Israël.
Ouais, c'est on plus va... de 200 familles par mois. Et le but de Cœur des Mamans, c'est de sortir les gens de la pauvreté. Ce n'est pas de les entretenir, mais de les sortir de là.
Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que ouais, ça me fait penser, ça me fait penser un peu à... Moi, je me rappelle souvent entendre dire Binyamin, le directeur de ToraBox, dire ToraBox, à la base, c'est une organisation qui est là pour diffuser la Torah. Mais aujourd'hui, pareil, qui fait énormément de recettes, que ce soit avec les familles, avec les démunis.
J'avais lu un article, ils aidaient plus de 400 ou 500 familles par mois.
Alors, ouais, l'année qui est passée, c'était plus de 5000 personnes qui ont été aidées au niveau des démunis. Et en fait, lui, il dit, nous, on n'a jamais cherché à faire entre guillemets, du social et aider les gens. En fait, c'est quand on est sur le terrain, on rencontre ces gens-là, on a pris nos responsabilités et on les a affrontés, exactement comme tu viens de le raconter avec ta femme.
Benjamin, moi, je le connais personnellement parce que je l'ai rencontré à plusieurs réceptions. Et on a lié d'amitié parce que on a eu un point commun exceptionnel, c'est que on s'engage sur quelque chose et sans le vouloir on va vers autre chose parce qu'on peut pas laisser quelqu'un tendre la main et ne pas l'aider.
Et j'imagine que malheureusement il y a plein d'histoires, plein de tragédies que vous avez pu affronter avec ces familles que vous rencontrez, le Cœur des Mamans, etc. Et est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement bouleversé et qui résume à elle seule la réalité de ce que vivent certaines familles en Israël?
Je t'ai dit que c'était de sortir les gens, le but c'est pas d'entretenir mais de sortir les gens de la pauvreté. Alors là, l'histoire qui m'a le plus choqué, je savais pas que ça existait quoi en fait. Une famille israélienne, d'accord, qui vivait dans un bus. Bon, c'est allé longue l'histoire, je vais la faire courte. Mais c'était un bus et guide, avec devant, ils ont construit un petit truc en bois. C'était l'entrée de la maison. Et c'était leur maison, c'était le bus.
Et comment tu t'es rendu compte qu'une famille vivait dans un bus?
Alors justement, si tu veux revenir au début de l'histoire, c'était une bénévole du Cœur des Mamans. Sa fille, donc, tu sais, toutes les bénévoles du maman, leurs enfants prennent exemple. C'est ça qui est formidable. Et sa fille qui était à l'école de 12 ans, elle a vu une gamine rentrer en chaussons, en pantoufles, à la maison. Et elle voyait plusieurs jours comme ça. Et elle a dit, maman, c'est bizarre, elle n'a jamais de chaussures. Et elle a alerté sa mère. Sa mère, elle l'a suivie, une fois à la sortie d'école, et elle a vu qu'elle vivait dans un bus. On a, Baruch HaShem, grâce au contact de ma femme, on a été à la mairie de Jérusalem, on a pu obtenir un appartement, une sorte d'HLM. On a payé toutes ses factures. On a aménagé toute sa maison, mais le plus dur, c'est qu'on a dû vivre avec eux pendant 6 mois, une bénévole qui s'appelle Déborah. Elle a dû vivre avec eux pendant 6 mois, c'est-à-dire que toutes les 2-3 fois par semaine, elle allait chez eux pour leur réapprendre à mettre les habits dans une armoire.
Ils avaient perdu toutes les...
Toutes notions de vie.
Notions de base vie d'une maison, quoi.
Ah ouais,
c'est chaud.
Il y a des gens qui vivent comme ça.
Alors... On a parlé beaucoup de bitachon, ce qu'on dit en hébreu bitachon, donc c'est la confiance qu'on remet au ciel, à Kadosh Baruch Hu, la confiance en Hachem. J'aimerais qu'on remonte le temps, j'aime bien poser cette question à...
T'aimes bien retour vers le futur, toi.
Ouais, retour vers le futur, là, c'est une période qu'en général, on n'aime pas se rappeler, mais voilà, pour ceux qui travaillent dans le monde du mariage, etc., on est en 2020, le Covid tombe de manière brutale. Au début, on croit que ça va durer une semaine ou deux. On comprend tout de suite que ça va durer longtemps. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de réception. Comment tu tiens au niveau du travail et même psychologiquement et en termes de foi envers HM, comment tu tiens à cette période-là?
Franchement, j'ai paniqué. Covid est arrivé, j'ai vu que ça s'instaurait, ça allait rester, comme tu as dit. Alors, j'ai dit, on va aller de l'avant. Allez, moi je sais qu'HM, il ne nous laisse pas tomber, du moment qu'il faut faire ça, je t'adoute. Alors j'ai commencé à lancer, j'ai dit, si les gens ne peuvent pas venir à nous, parce qu'ils sont bloqués, on va aller vers eux. Donc j'ai monté un système de livraison. J'ai pris des copains qui étaient photographes, qui étaient DJ. Je leur ai dit, vous voulez du boulot, les mecs? on va lancer les livraisons. Est-ce que vous êtes prêts à me faire
donc
les livraisons?
Donc t'as pris
les prestataires
des
réceptions
qui bossaient plus.
Qui bossaient plus.
Et tu leur dis, bon, je vais vous faire bosser.
Et j'ai fait de la publicité et j'ai lancé, et on a lancé les livraisons dans tout le pays.
Incroyable.
Et donc j'avais un mec qui venait de Tel Aviv, Samuel, un super pote extraordinaire que je salue. Il venait, un bosseur le mec, quoi. Il aurait pu dire, ouais, l'État va m'aider. Non, non, le mec, il est venu direct, parce que c'est un bosseur, ça, c'est tout. Il a compris qu'il fallait faire Shaïsta de l'août. Il est venu, il a fait les livraisons sur tout le Merkaz, d'autres sur d'autres le Sud. Et bah, au Hachem, on a livré des gâteaux et on allait vers les gens. Et au Hachem, on a
tenu comme ça la période.
On a tenu et on a super bien travaillé. Mais ce que je te dis, tu me rappelles un truc, Youssef, c'est que. Il y a un truc que j'ai fait et que je me suis pas rendu compte par la suite que c'était normal, que c'était pas normal en fait ce que j'ai fait. J'ai fait des réceptions pour 30 personnes à Netanya, à Herzliya, à Tel Aviv, à Ranana. Et les gens ils me disent, vous vous déplacez pour 30 personnes? Je fais, bah oui. Pourquoi je veux pas me déplacer? Je dis, mais c'est vrai que je vais gagner 30 personnes, un billet à 4000, j'ai quelques, qu'est-ce que tu gagnes dans l'histoire? Paye les serveurs, paye les trucs et tout ça. Voilà quoi. Et j'ai dit, mais pourquoi je veux pas la faire, madame? Ben, je sais pas, moi, les autres traiteurs, ils veulent pas la faire. Et vous, vous acceptez en plus de Jiru. Je sais, ben, vous voulez que je vous dise, madame, quand il y a de l'argent, et quand il y a des beaux menus, on s'aide, là. Mais moi, je me suis mis à la place de cette femme, Youssef, tu sais. Imagine, regarde, Youssef, t'as la barbe, de ton fils, tu m'adores. C'est vrai que tu m'adores ou pas?
Oui, bien sûr. T'adores.
J'ai la barbe, ton fils, et je te dis, ben, Covid, désolé, je viens pas. T'as des boules.
D'ailleurs, on s'est connu presque.
Tu voulais
Covid, que ça... Non, je me trompe. Enfin, on fait une dédicace à la Kéla de Givat Shmuel.
Que j'adore.
qu'on adore tous les deux. Et c'est un peu pendant cette période-là où j'ai vraiment connu le personnage. Parce que c'est vrai que c'était impressionnant. On était en plein Covid avec les masques et on voit le traiteur arriver avec une prestation normale. On dit, mais pourquoi? C'est possible? Et Franck, ça fait bientôt 30 ans que tu es en Israël. Tout à l'heure, tu nous parlais de ce côté vraiment là, ce côté nature entre les Israéliens. On parle d'une manière naturelle, simple, etc. Et est-ce que pour toi, faire son alia, c'est aussi une forme d'humilité? On va parler aussi après du regard des Français qui font l'alia et qui se disent, bah tiens, ça c'était pas comme à Paris. À Paris, on faisait comme ça, ou à Paris, on avait ça, etc. Et c'est quoi ton regard que tu as sur cette façon le regard qu'on doit avoir sur l'alia de manière générale quand on monte en Israël?
Si tu veux parler de l'alia, moi, je veux dire qu'une seule chose, j'ai vu, en 30 ans, j'ai vu beaucoup de gens arriver, et des gens repartir, malheureusement. Mais je veux que je te dise, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut venir ici, et pas dire, je veux leur montrer. C'est quoi? C'est quoi la pâtisserie? C'est quoi les habits? C'est quoi la mode? C'est quoi la technique? Non, il faut venir et apprendre d'eux. Et voir comment ce qu'ils aiment, et ce qu'eux, ils préfèrent. Comment eux, ils s'habillent. Comment eux, ils mangent. Comment eux, ils pensent. Il y en a qui viennent, ils veulent ouvrir tout de suite une société, ouvrir des magasins, et ils pensent on vient de France. La science infuse. On sait c'est quoi le business. Eh bien, c'est faux. Les Israéliens, c'est une autre mentalité. Les Israéliens, c'est une autre façon de voir, c'est une autre façon de manger. Et je pense que, moi, si je dois conseiller des gens, si vous venez en Israël et vous voulez faire votre alia, appelez-moi. Non, je rigole. Il est pas mal, ça l'a vraiment.
Ouais, pas mal. On va afficher le numéro de Franck juste en dessous.
Non, j'adore rigoler. Ouais. Tu me connais.
Je sais.
Non, si. Eh bien, d'abord, travailler en Israël, regarder comment ils travaillent, que ce soit dans la médecine, que ce soit pour des dentistes, que ce soit pour n'importe quoi. Regardez comment eux, ils travaillent. C'est
soyez
quoi le
humble.
Système
je résume, soyez humble.
Oui, non, mais il faut, ne pensez pas que vous connaissez rien. Il faut venir et dire, je comprends rien.
Justement, puisque tu parles de s'adapter à la population israélienne, à la mentalité israélienne, et j'aimerais qu'on reste encore un instant sur l'alia. Ouais. On avait fait un documentaire à l'époque sur Torahbox sur l'alia pour aider les gens à bien préparer l'alia. L'alia, évidemment, c'est la plus belle chose qui peut arriver à un juif, mais il faut bien la préparer. Et donc, on avait fait ce documentaire pour vraiment présenter comment ça fonctionne en Israël. Et on avait parlé des écoles. Nous, on est en France, on met l'enfant à l'école juive et on est content. En Israël, il y a plusieurs systèmes d'écoles, le système laïque, système sioniste religieux, système orthodoxe, etc. Toi, dès le début, tu as fait un choix de mettre directement, dès le début, tes enfants dans une école, ce qu'on appelle orthodoxe, religieuse. Pourquoi tu as fait ce choix dès le début? Est-ce que tu as compris dès le début l'enjeu qu'il y avait derrière?
Je vais te dire quelque chose. J'avais l'influence de mon frère qui était comme Shiroch Kollel, mais il y avait autre chose que j'avais vu dans ma vie. c'est que, en fait, tu sais, j'ai connu beaucoup de gens. Ils ont bossé, ils ont été à l'école, ils ont fait la seconde, la première, la terminale, le bac, et blablabla. Et j'ai vu des gens qui ont étudié la Torah, notamment mon beau-frère, qui n'a jamais été à l'école. Il a étudié la Torah toute sa vie. Et que, à partir de rien, mais vraiment, c'est une histoire qui est très marrante, qui me fait rire, et qui me fait rire, que je trouve ça incroyable. Il a décidé d'apprendre l'anglais. Pourquoi ? Pour pouvoir, parce qu'il kiffait les ordinateurs. Il a appris à faire des programmes, et aujourd'hui, il est programmeur. La Torah, c'est une ouverture énorme. La Torah, c'est quelque chose, et c'est les conseils que j'ai donnés à mes enfants. Lancez-vous dans la Torah, et après Dieu, il vous guidera. Le diplôme, aujourd'hui, il ne veut plus rien dire. Et si je peux donner un conseil au niveau des écoles, d'accord ? C'est qu'aujourd'hui, il faut chercher une école. Tu sais, avant, on cherchait le diplôme. Aujourd'hui, moi, je cherche une école où mon fils va être bien. Parce qu'avoir des enfants équilibrés aujourd'hui, c'est un grand mérite, je crois.
C'est vrai.
Avant, le souci, c'était quel métier il va faire. Aujourd'hui, est-ce qu'il va être équilibré, mon fils ?
Exactement.
Comment il va finir ?
Lui, dans son couple,
voyou,
avec ses enfants.
Voyou, pas voyou. Il va fumer, il va pas fumer, il va traîner avec qui, il va... Aujourd'hui, les enfants, ils ont des réactions de fou. Je suis choqué. Moi, tu sais que je fréquente des jeunes, parce que je suis jeune. Non, je rigole.
Mais oui, t'es jeune.
Les serveurs, ils ont tous 18, 20 ans. J'entends des histoires que j'ai jamais entendues à mon âge. Des histoires qui sortent. Je crois que c'est le rayon de la science-fiction. Et aujourd'hui, de voir mes enfants équilibrés, de les voir bien, parce que je suis choisi déjà. Je pense que la Torah donne l'équilibre. C'est pas que je pense, j'en suis sûr. Mais en plus de cela, il faut choisir l'école où le fils, notre fils, il sera bien. Et pas nous. On pense qu'il sera bien pour nous.
En gros, ce qu'il a fait ton père avec toi.
Voilà. Exactement. Ben, tu m'as exactement
c'est
bravo.
Ça, c'est ça. On sait que le monde du mariage, des réceptions, c'est des fois un peu spécial. Est-ce que tu as reçu des fois des demandes un peu bizarres de personnes qui t'ont demandé de faire des choses par rapport à leur goût, que tu as des fois peut-être refusé de faire ?
Une fois, c'était un gros délire. Et là, c'était déplacé même. On m'a demandé, c'était le 11 septembre, quand les tours, ils ont été, malheureusement, aux États-Unis, à New York, les tours jumelles. Deux ou trois ans après, une femme, la bar mitzvah de son fils, elle me dit, vous savez que ce serait le 11 septembre, je fais, ah bah, sacrée date, hein, madame, hein. Elle me dit, bah, justement, on voudrait faire une pièce montée avec deux tours, vous pouvez me les faire? Et là, je voyais gamin c'est... en train de détruire...
On imagine le...
Ouais, le couteau qui allait passer.
C'est pas rigolo.
Et là, j'ai fait... Excusez-moi, madame, alors là, je trouve ça pas terrible.
Après, peut-être qu'elle a pas imaginé que c'était déplacé.
Peut-être, elle voulait célébrer, une commémoration. Peut-être dans sa tête, c'était, soyons cap zéro, c'était une commémoration pour se rappeler.
Mais à la fin,
mon avis, c'était ça, d'ailleurs. À mon avis,
mais
c'était
nous,
ça.
Nous, on connaît la fin
de l'histoire. Mais moi, je voyais la suite, c'est le couteau qu'elle est... Je crois qu'elle avait pas imaginé ça,
elle
là, par la suite.
Elle avait pas imaginé ça, ouais. Et avec les années, ton métier, il t'a amené à croiser des personnalités qui t'ont appelé pour faire la bar mitzvah de leur enfant. On a cité dans l'introduction Eyal Golan, le chanteur. Comment ça se passe quand Eyal Golan il t'appelle, il te dit « Je fais la bar mitzvah de mon fils, voilà, j'ai bien quelqu'un pour le traiteur ?»
Alors, d'abord, c'est son agent qui m'appelle. D'accord, jamais un chanteur ou un acteur ou un comédien va t'appeler directement. Et bah, j'étais très, très touché. C'était fou pour moi de faire ça.
Et c'était où, on peut te demander, c'était où la
barmitzvah ? C'était dans la vieille ville de Jérusalem, aux quatre synagogues.
Ah oui.
Les quatre synagogues séparades. Tu as dû faire des réceptions là-bas aussi. Et c'était là-bas, c'était impressionnant. Orchestre oriental, c'était la folie, c'était la folie. Mais les gens, tu vois, c'est rien, j'étais choqué, je m'attendais. Bon, il y avait des gens très classe, mais il y avait des gens, en fait, je faisais des toasts et au saumon. Et une femme, elle vient, elle me dit, dites-moi, t'as pas du fromage tsehouba ? Vous avez que du saumon, c'est dégueulasse.
Ouais, le côté naturel, encore une fois, on revient sur le côté naturel des Israéliens.
Bien, ces Israéliens, ils mangent l'omelette bien cuite. Et nous, on la fait baveuse. Et la meuf, elle me disait, une femme était là, elle me disait, vous voulez que je vous montre comment on fait une omelette? J'adore.
T'avais une histoire avec Gad Elmaleh aussi, qui avait une demande spéciale.
Alors, Gad Elmaleh, non, parce qu'on avait passé une journée ensemble, et j'étais censé lui fournir à bouffer toute la journée. Et Gad, il m'a dit, il était midi, je lui ai dit, je te fais un sandwich ou pas? Il m'a dit, franchement, je n'ai pas envie. J'ai dit, quand tu veux quoi, une salade? Alors, je fais quoi? Il dit, tu vas rigoler. Je dis, vas-y, lâche, au revoir, je vais te dire. Il me dit, je veux un couscous boulette.
D'accord.
Tu me charries là.
Puis quand les Marocains,
mais t'es Marocain, voilà, exactement. Je lui dis, mais t'es Marocain. Il me dit, ta mère a des thunes, tu m'as dit. Je fais, ouais, ma mère a des thunes. Il me dit, je veux un couscous boulette. Écoute, j'appelle ma mère, je tente le coup. Ma mère, elle me dit, si c'est pour Gad, j'arrive tout de suite. 3 heures après, tu vois ma mère arriver avec sa marmite. Et dans la salle de concert, on a mangé de 5h à 6h30. Et juste avant qu'il montait en scène à 8h moins 4.
Donc clairement, on pouvait lui demander, fais-moi un couscous en 3h, c'était réglé.
Ma mère, c'était merveilleux. Ma mère, je pouvais lui ramener du monde. Quand j'étais gamin, à n'importe quel moment, il y avait toujours à manger, il y avait toujours baou rabat.
Franck, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous.
Merci à toi.
On a vraiment passé un bon moment. Merci beaucoup, Franck. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé découvrir ou redécouvrir Franck Assulli, Franck Guilight. Et on vous dit à très bientôt sur Torah Box.